Radio Présence vous offre cette semaine des places pour un spectacle son et lumière à la Basilique Saint-Cernin.
Toulouse Cœur de Lumière, c'est le spectacle inédit actuellement présenté à la Basilique Saint-Cernin et ce jusqu'au 8 avril. Pour nous le présenter et découvrir tout le travail de création, nous sommes en ligne avec Sébastien Salvagnac, coordinateur général du spectacle. Bonjour.
Bonjour à vous.
On vous entend très loin, j'espère qu'on vous entendra mieux tout à l'heure. À mes côtés, Jean Persil, fondateur et directeur artistique de la Schola Cantorum. Bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs de Radio Présence vous connaissent bien puisque vous produisez chaque semaine l'émission Point d'Orgue et c'est une joie de vous accueillir ce matin. Sébastien Salvagnac, comment a débuté cette grande aventure qu'est ce spectacle immersif à la Basilique Saint-Cernin ?
Oh, elle a débuté il y a très 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 longtemps puisque je suis tarné et j'ai fait toutes mes études à Toulouse et je suis tombé amoureux il y a très longtemps de la basilique en me baladant dans les rues de Toulouse. Et puis plus récemment, mon travail m'a amené à travailler dans le patrimoine religieux et évidemment tous ces souvenirs sont remontés et j'ai eu envie de créer un spectacle immersif à l'intérieur de cette magnifique basilique.
Donc c'est finalement vous qui avez proposé, qui avez été à l'initiative de ce spectacle à Saint-Cernin ?
Oui, tout à fait. Je suis allé rencontrer tout d'abord le diocèse, puis le père Bogdan, puis la mairie de Toulouse. Une fois que toutes ces personnes nous ont donné leur accord, nous avons commencé à travailler sur la création du spectacle.
Alors précisons que vous avez une longue expérience de spectacle immersif, 15 ans de spectacle dans le monde entier et puis pour Saint-Cernin, c'est le 9e spectacle immersif réalisé. Vous avez aussi cette expérience, vous disiez, dans les églises puisque vous avez fait récemment un spectacle à Saint-Sulpice à Paris.
Oui, tout à fait. Récemment, on a fait le spectacle à Saint-Sulpice à Paris. Juste avant, on était à la cathédrale Saint-Jean à Lyon. Et encore plus récemment, en décembre, nous étions à la cathédrale de l'Immaculée Conception à Bogota, en Colombie.
Vous voyagez en tout cas, c'est plutôt sympa.
Ouais, on essaye.
Pour l'écriture du texte, vous avez bénéficié du soutien d'experts de l'histoire de la basilique. Alors nous connaissons Philippe Foreau qui est diacre et professeur agrégé d'histoire contemporaine, qui lui aussi fait une chronique sur Radio Présence, décidément. Kit Ricasse qui est professeur d'histoire de l'art médiéval et Virginie Cerniac qui est maître de conférence en histoire de l'art médiéval. Quelle histoire vous ont-ils proposé de raconter dans le spectacle ou est-ce que c'est vous qui avez peut-être choisi des extraits, des épisodes de l'histoire ?
Alors, tout d'abord, je précise que je n'étais pas tout seul à écrire, nous sommes plusieurs à écrire. Et l'ensemble du spectacle, d'ailleurs, est un travail d'équipe. Hein. Je ne suis pas. C'est pour ça que j'ai le titre de coordinateur. Oui. Je suis là pour coordonner tous les gens qui travaillent, mais je ne suis vraiment pas tout seul. À trois experts que je remercie ici encore une fois. En fait, on leur a proposé, nous, un scénario. Et on leur a demandé si ce que l'on racontait avait une véracité historique. Parce que notre travail à nous, bien sûr, c'est d'offrir, si vous voulez, l'histoire de la basilique à tout public. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, s'adresser aux spécialistes de l'histoire, mais on s'adresse aussi à des gens qui sont férus d'histoire. Donc, il ne faut pas qu'on raconte de bêtises, en gros. Et donc, nos trois experts ont été là, ce sont des garde-fous. C'est-à-dire qu'ils nous disent, attention, là, il vaut mieux aller vers cette direction parce que on n'est pas sûr vraiment de la véracité de l'histoire à ce niveau-là. Vous devriez plutôt parler des fresques médiévales parce qu'elles ont un intérêt graphique très important et un intérêt historique pour la basilique. Donc, ils nous dirigent sans cesse et nous donnent des directions par rapport à des propositions que l'on fait.
D'accord. Jean Persil, vous, ça fait quand même plusieurs années que vous officiez à Saint-Cernin en tant que chef de chœur et vous avez fondé cette Schola Saint-Cernin. Est-ce que vous avez réussi à vous imprégner de l'histoire de cette basilique ?
Alors, tout à fait. On a essayé d'être dans une démarche historique comme d'habitude. Et en fait, c'est ce qui nous a plu dans la démarche proposée par toutes les équipes de Cœur de Lumière et de Sébastien en particulier, c'est-à-dire un côté presque un peu à rebrousse-poil. C'est-à-dire que nous avons pensé la musique très tôt dans ce spectacle. En fait, ça nous a permis d'entrer dans la démarche de ce que Sébastien vient de dire, une démarche totalement historique, puisqu'en fait, le spectacle s'appelle Saint-Cernin millénaire. Et donc, nous avons pris plusieurs siècles d'histoire entre le Moyen Âge et la période contemporaine. Et donc, on a vraiment voulu s'inscrire dans cette démarche historique de la vie de la basilique, avec des chants dont le texte, si on le traduit, vraiment colle avec ce qui a été demandé par toutes les équipes. Et donc, l'objectif, c'était vraiment non seulement de s'imprégner acoustiquement du lieu, bon, ça, lieu qu'on connaît bien, mais aussi de donner un différent regard sur l'histoire par le biais de la musique.
Est-ce que ça signifie que vous avez ressorti des partitions qui sont très anciennes ?
Alors, on a ressorti des partitions qui sont très anciennes et qui n'ont pas été chantées depuis plusieurs siècles. J'ai en tête notamment une partition de Grégorien que nous avons réédité dans le cadre du jubilé de la Saint Thomas d'Aquin, qui a été commandé par les Dominicains de Toulouse, donc qui traite de Saint Thomas d'Aquin et de Toulouse. À proprement parler, les mots sont dits en latin dans cette procession. Et voilà, donc non seulement il y a une mise en scène, mais en plus il y a vraiment un côté redécouverte du patrimoine, mais également au auditif qui est assez extraordinaire.
La Scola Saint-Cernin chante à certains des spectacles, certaines soirées, c'est ça ?
Alors, en fait, on chante un peu tout le temps, puisque nous avons procédé en septembre à l'enregistrement du spectacle. Et donc, en fait, les gens qui assistent au spectacle entendent la Scola tous les soirs. Mais effectivement, il y a certaines soirées particulières où nous chantons en live, ce qui est intéressant à plus d'un titre. Ça permet effectivement d'avoir le visuel du chœur qui chante, d'avoir le son dans son jus, et également une spatialisation du son qui est très intéressante, puisque nous chantons soit au centre de la basilique, puisque c'est là où se situe la scène, soit dans le chœur, qui est notre lieu de prédilection, soit sous l'orgue, puisque ça nous permet de proposer une expérience avec le plus de forme possible pour l'auditeur.
C'est ce qu'on appelle une expérience immersive.
Tout à fait.
Oui. Alors, vous avez parlé de l'orgue et effectivement, le grand orgue participe aussi à tout ce volet musical de ce spectacle.
Il aurait été grave qu'il n'y participe pas, je pense. Le chef-d'œuvre d'Aristide Cavaillé-Coll en effet résonne à deux reprises au moment du spectacle, au début et à la fin, dans des registres tout à fait différents. Ça reste de la musique du début du XXe siècle, mais le but du jeu, c'était aussi d'entendre cet instrument incroyable, puisque... comme vous le savez certainement, l'orgue a ce site spécial, c'est que l'église fait partie de l'instrument, puisque c'est la caisse de résonance de l'orgue, et il y a une dimension acoustique qui est absolument extraordinaire. Et bien entendu, avec l'équipe d'organistes dont nous disposons, il aurait été sot presque de ne pas se diriger vers ce genre de musique-là. Donc voilà, vous entendrez non seulement de la musique a cappella, mais de la musique accompagnée avec le grand orgue.
Et là aussi, les pièces de l'orgue ont été trouvées dans tout un répertoire médiéval et puis
alors,
jusqu'à nos jours.
Le répertoire d'orgue est plus récent. Le répertoire d'orgue est plus récent parce que l'orgue, si vous voulez, c'est un instrument qui a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup d'ajustements au cours des siècles. Et au Moyen Âge, l'orgue n'était pas du tout l'instrument que l'on connaît aujourd'hui. L'instrument d'aujourd'hui, c'est un instrument qui a été beaucoup remanié par Aristide Cavaillé-Coll. Enfin, le buffet est assez ancien, mais l'instrument en soi est un instrument dit symphonique du 19e siècle, et donc il a été fait pour des répertoires vraiment presque orchestraux. Et donc, vous allez entendre, notamment dans le final, sans vouloir tout dire, et donc le mieux, c'est d'y assister, mais dans le final, vous avez comme s'il y avait le tutti de l'orchestre qui se prononçait. Et donc, il y a ce côté très, très symphonique, très orchestral que l'on peut entendre avec l'orgue. Donc, c'est plutôt un répertoire récent. On a choisi début du XXe siècle pour l'orgue, mais les chœurs, eux, oui, effectivement, vont du Moyen Âge à nos jours.
Sébastien Salvagnac, vous avez aussi dans votre équipe un compositeur de musique, parce que la Scola Cantorum de Saint-Cernin, de la Basilique, et le Grand Orgue ne font pas toute la musique.
Et non, oui, c'était un peu trop leur demander quand même. donc, si vous voulez, c'est le cœur de la musique. Et j'ai demandé à un compositeur que je connais bien, puisque c'est mon frère, de lui faire composer tout le reste. Et ce n'était pas simple, parce que quand on a en face un chœur, un orgue, et l'histoire et la basilique, ce n'est pas toujours simple de composer la musique qui va accompagner tout ça. Mais pour nous, c'est essentiel. En fait, comme l'a très bien dit Jean au début de son intervention, on a pensé le spectacle avec la musique. Et je dirais même plus, on a pensé la musique et puis peut-être on a pensé le spectacle après. On a créé les images, toutes les images, parce que bien sûr, il faut en parler. Il y a
Oui,
des
nous allons en
images qui sont
parler, oui.
projetées sur l'ensemble de la basilique, mais on les a créées par rapport à la musique. Et c'est vrai que c'est un processus qui est un peu différent par rapport à d'autres spectacles, où des fois on crée les images, on crée le spectacle, et puis après on demande au compositeur de faire une musique qui va accompagner tout ça. Là, en fait, la musique est le cœur du projet, sans faire de jeu de mots, mais et c'est vraiment important pour nous. Et le travail qu'a réalisé Jean avec toutes ses équipes était essentiel. C'est-à-dire qu'on a pensé le spectacle par rapport à tout ça. Et ça, c'est vraiment important. Et comme il l'a dit, c'est très important aussi de le souligner, c'est que bien évidemment, il y a les 20 soirées, donc 40 représentations où ils sont là, ils sont présents, et ça, c'est vraiment exceptionnel pour nous et pour le spectateur. Mais toutes les autres représentations, ils sont là via un enregistrement. Et pour avoir bien évidemment écouté les deux spectacles et participé aux deux, en fait, c'est deux spectacles qui sont différents et similaires. C'est-à-dire qu'on a des émotions différentes quand il y a le cœur et quand il n'est pas là, mais c'est exactement le même spectacle. Et ça, j'y tenais beaucoup. Je ne voulais pas qu'il y ait un spectacle avec le
Dégradé.
cœur, voilà, et puis un spectacle, on va dire, un peu moins bien parce qu'il n'y a pas le cœur. C'est le même spectacle. Il n'y a rien absolument qui change. C'est la même musique, c'est le même spectacle. Par contre, de temps en temps, on a la chance d'avoir le cœur et l'orgue en direct.
De quoi s'est inspiré votre frère Cyril Salvagnac pour composer toute cette musique?
Alors, ça aurait été bien qu'il soit là pour vous le
Eh
dire,
oui.
mais si vous voulez, je pense qu'il s'est beaucoup inspiré des chœurs et de l'orgue. C'est-à-dire que son travail, c'était d'amener la musique vers le chœur. Alors, pour vous expliquer, par exemple, on a des parties qui sont parties avec des textes, puis après on a des parties avec de la musique uniquement, et puis après on a des parties avec le chœur et l'orgue. Il faut que tout ça, à la fin, cela nous donne une seule et même bande de son. Donc le travail était à la fois un travail de création par rapport à la mise en scène, puisqu'il a travaillé sur la mise en scène et sur les idées d'images que je lui donnais, puisque les images n'étaient pas faites quand il a créé la musique. Et surtout, il s'est dit à chaque moment, voilà, j'ai une partie du cœur qui arrive à ce moment-là, comment je vais arriver jusqu'au cœur? Parce qu'il faut arriver dans la même tonalité, dans un rythme qui permet à Jean après de lancer le cœur. Il y a beaucoup de problèmes techniques, on va dire, en dehors de la création même. Donc tout ça a été un travail d'orfèvre et de précision. Ils ont travaillé aussi, bien sûr, Jean et Cyril, mon frère, ensemble, pour que le chœur fasse partie du spectacle et que la bande de son ne soit pas une musique juste additionnelle. C'est vraiment une musique qui accompagne et qui amène vers le chœur.
Nous allons parler des lumières, mais avant cela, je voulais poser cette question à Jean Persil. Comment avez-vous répété avec la Scola, qui est un chœur de bénévoles, enfin d'amateurs en tout cas, hein? Comment avez-vous répété pour que justement votre chant s'intègre à la musique et que tout ça ne fasse qu'un finalement?
Eh bien, comme l'a dit Sébastien, on était un peu à la genèse du projet artistique, j'entends. Et donc, effectivement, c'est presque le spectacle s'est construit autour de la musique et les images sont venues après. Donc, en fait, on a pensé une trame enfin, Sébastien a pensé une trame sur tout le spectacle et nous avons essayé dans le répertoire de piocher des éléments qui nous permettaient de coller au maximum avec ce qui se faisait. Donc, bien entendu, je lui ai proposé une liste de chants que nous connaissions. En fait, nous en avons appris un pour les besoins du spectacle. Le reste faisait partie de notre répertoire. Donc, tout amateur éclairé, que ce soit les choristes, eh bien, ils ont pu ressortir leur répertoire. Et donc, nous l'avons enregistré. Et c'est quelque chose, voilà, qui a permis d'être dans cet acte créatif et qui est rentré tout naturellement en adéquation avec les lumières, mais également les acteurs qui sont sur scène, présents sur scène tous les soirs, et qui permettent là aussi d'avoir une véritable symbiose tout au long du spectacle.
Alors, vous allez parler d'acteurs. Effectivement, il y a trois acteurs et un danseur. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Sébastien Salvagnac, le rôle des lumières?
Alors, on est dans un son et lumière,
Eh
donc
oui.
le rôle des lumières est très important, bien évidemment. En fait, notre terrain de jeu, c'est l'architecture de la basilique. La basilique est très grande, comme vous le savez, c'est la plus grande basilique romane d'Europe. Et donc, il fallait être très humble par rapport à cette architecture. Et on a décidé donc de ne travailler que sur la nef centrale, en images, c'est-à-dire que toute la nef est habillée d'images, hein, que ce soit la voûte ou les colonnes. Et tout le reste a été mis en lumière. C'est-à-dire que comme on ne pouvait pas mettre de l'image partout, c'était trop compliqué, surtout pas très intéressant pour le public, puisque le public est positionné dans la nef.
Oui.
Et pour garder cette immersivité, on a habillé tout le reste de lumière. C'est-à-dire que toutes les nefs latérales, les travées latérales sont habillées de lumière, le chœur est habillé de lumière, l'orgue est habillé de lumière, et tout le reste, c'est des images. Et tout ça donne, si vous voulez, une ambiance lumière-image totalement immersive. Donc toute la scène est positionnée centralement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, comme dans la plupart des spectacles qu'on peut faire dans les églises, positionné dans le chœur. On est positionné au centre,
Oui,
parce
ce que
que
disait
la
Jean-Baptiste.
basilique, voilà, ouais, c'est très important parce qu'en fait, ça a été le départ un peu de l'histoire, c'est-à-dire que la basilique a été construite de telle manière à ce que le chœur est un peu éloigné du début de la nef et de l'orgue, si vous voulez. Et je ne voulais pas que le public qui soit positionné vers l'orgue ne puisse pas profiter totalement des acteurs et du chœur qui soient positionnés dans le chœur. Et on a créé toutes ces images par rapport à cette position centrale.
D'accord, et ça participe effectivement au caractère immersif du spectacle. Ce son et lumière, Toulouse Cœur de Lumière est donné jusqu'au 8 avril. Des réservations sont possibles sur toulouse.coeurdelumière.fr. Merci beaucoup à vous deux, Sébastien Salvagnac et Jean Persil, et bravo pour ce travail.
Merci.
Merci.